La mise en place du gouvernement, prochaine étape après les élections provinciales. Vous retrouverez dans un instant la chronique de la semaine écoulée d'Elisabeth Noir. Incendie accidentel ce matin à l'UNC. Une pièce a été détruite et 150 mètres carrés de bâtiment endommagés par la fumée. Grand gala en fin de semaine pour l'élection de Miss Calédonie 2026. Nous recevrons dans ce journal la présidente du comité Stella Levanao. En métropole, le vote cette semaine du projet de loi d'urgence agricole. Il prévoit l'utilisation de pesticides jusque-là interdits en France, mais pas dans les autres pays européens. Hommage aux 13 000 juifs du Veldiv, la ministre chargée de la lutte contre les discriminations, Aurore Berger, a rappelé que la lutte contre l'antisémitisme restait d'actualité. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal qui se poursuivra avec notre magazine des sports du lundi avec une actualité sportive évidemment très riche. Bonjour Michael Duneski.
Bonjour Jean-François.
D'abord le football, le mondial est terminé et une deuxième étoile pour l'Aurora.
Oui, l'Aurora qui célèbre sa deuxième étoile, vainqueur de l'Argentine tenante du titre qui a échoué dans sa quête d'un quatrième sacre. Les Espagnols remportent un succès mérité mais difficile, 1-0 à l'issue de la prolongation dans une rencontre cadenassée où l'Albicéleste a une nouvelle fois tenté le hold-up en décidant de se montrer que dans la fin de la rencontre. Et avec un Lionel Messi totalement invisible aujourd'hui, Kylian Mbappé, le capitaine français, termine meilleur buteur de ce mondial.
Nous parlerons évidemment du Tour de France avec un coup de tonnerre la nuit dernière pour nous.
Un tournant sur la grande boucle, le Danois Jonas Vingegaard, seul réel rival de Pogacar, qui a abandonné sur une chute. Le cannibale slovène, de son côté, a encore terminé deuxième juste derrière le Belge Remco Evenepoel, vainqueur de la 15e étape et désormais deuxième du classement général. Il reste encore une semaine de course sur ce Tour de France.
Nous reviendrons sur les principaux résultats du week-end sport en Calédonie et nous parlerons aussi avec notre invité de rugby à 13.
Oui, la pratique est très prisée chez nos voisins australiens. Elle continue de se développer sur le territoire avec le club Pacific 13 qui recevait notamment durant une semaine un entraîneur arrivé de l'île continent, Joseph Besgrove. Nous verrons quels sont les projets à venir pour la discipline avec Manu Jalabert, le responsable de Pacific 13 qui sera notre invité.
Rendez-vous pour le Mac des Sports dès la fin de ce journal. La suite de la mise en place des institutions après les élections provinciales du mois de juin, après les exécutifs provinciaux, puis le renouvellement des instances du Congrès, l'étape suivante est celle de la mise en place du 19e gouvernement. On retrouve la chronique de la semaine écoulée d'Elisabeth Noir.
À quoi sert le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ? La question n'est pas aussi impertinente qu'elle le paraît, et c'est une interrogation récurrente depuis la naissance, en 1999, de cet exécutif atypique. Un gouvernement qualifié de collégial et de solidaire qui réunit toutes les composantes politiques représentées au Congrès en les obligeant à travailler ensemble malgré leurs points de vue contraires, voire opposés. Alors à quoi sert-il et faut-il le réformer, voire le supprimer ? Ces questions restent d'actualité alors que le Congrès doit élire dans quelques jours le 19e gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. 19 gouvernements en 27 ans, le nombre déjà interpelle et met en exergue l'instabilité chronique de notre exécutif, alors que 10 présidents se sont succédés depuis 1999, plusieurs d'entre eux ayant été élus à plusieurs reprises à la tête du gouvernement. Il faut dire que ce gouvernement original a souvent été renversé de façon surréaliste par distorsion de la loi organique. Elle prévoit que lorsqu'un membre du gouvernement cesse d'exercer ses fonctions, son suivant de liste le remplace. Mais des élus inventifs ont imaginé la démission en bloc. Une démission en cascade d'une liste qui fait immédiatement tomber le gouvernement et qui a été mise en œuvre à 11 reprises. Pratiquement tous les partis ont utilisé cette disposition. Mais en 2011, Calédonie Ensemble en a fait un usage notoirement abusif et a poussé le bouchon un peu loin en faisant tomber les gouvernements systématiquement dès leur formation. 5 gouvernements se sont ainsi succédés pour la seule année 2011. Un usage tellement outrancier et caricatural qu'il a fallu modifier l'article 121 de la loi organique pour faire en sorte que ce recours à la démission collective ne puisse avoir lieu qu'une fois tous les 18 mois. Il n'empêche, le gouvernement Santa est tombé en 2021 à la suite de la démission des membres indépendantistes et le gouvernement Mapu qui lui a succédé a chuté en décembre 2024 en raison de la démission collective de Calédonie Ensemble. La pratique est donc toujours d'actualité, même si le gouvernement Ponga y a échappé, il cesse simplement ses fonctions en raison de l'expiration du mandat du Congrès qui l'a élu. L'existence et la durée de vie du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie sont donc soumises aux contingences politiques et aux désidératas des groupes, même minoritaires. Peut-être faudrait-il le libérer de cette éventualité en laissant comme seule possibilité de faire tomber le gouvernement l'adoption d'une motion de censure par le Congrès. Une modalité qui aura été tentée une seule fois en 2012 et qui aura fait long feu puisque la motion de censure a été rejetée. Autre originalité de notre gouvernement collégial ou pluraliste, son président n'en est pas le chef. Il n'est que le primus inter pares, le premier entre les égaux, parce qu'il existe une égalité de fait entre les 11 membres du gouvernement. Aussi étonnant que cela puisse paraître, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, même s'il est le chef de l'administration, n'a pas de pouvoir hiérarchique sur les autres membres. Il est en fait chargé d'animer une équipe, de faire vivre la collégialité et de rechercher le consensus. Une tâche d'autant plus complexe qu'il n'est pas toujours soutenu par son groupe, ni par sa majorité au Congrès, comme on a pu le constater à plusieurs reprises ces dernières années. Et à ce titre, la vie et les aventures du futur gouvernement seront intéressantes à suivre. Comme il est élu à la proportionnelle et qu'il est la représentation fidèle de la composition du Congrès, on sait déjà, sans trahir aucun secret, qu'il comprendra 5 partis politiques et que sur les 11 membres, 4 appartiendront aux loyalistes, 4 à l'UCFLNKS, 1 au Rassemblement, 1 à l'UNI, et 1 à l'éveil océanien, qui en assurera la présidence dans le cadre de l'accord de gouvernance. Un cas de figure inédit, où le président du gouvernement serait issu d'un parti minoritaire, qui ne compte que 4 élus au Congrès. Et puis autre particularité, le 19e gouvernement serait élu au début de la 6e mandature de l'accord de Nouméa, qui à l'origine ne devait compter que 4 mandatures. Mais ça, c'est une autre histoire.
Et comme chaque semaine, vous pouvez retrouver cette chronique de la semaine écoulée sur notre site internet rrb.nc. Vous pouvez aussi la réentendre cet après-midi, c'est juste après le flash de 16h. 10 milliards de francs injectés dans l'économie calédonienne, c'est l'annonce faite par l'État vendredi soir. 50 nouveaux projets vont être financés dans le cadre de la deuxième vague du plan de relance de l'activité économique. 4 priorités d'investissement avaient été ciblées, Charlotte Coulson.
Et la première, c'est le désenclavement des territoires. 4 milliards de francs y sont consacrés. Cela passera par la réhabilitation de routes, la construction et rénovation de ponts, de radiers, et puis l'amélioration de la desserte de certaines communes. Le syndicat mixte de transport interurbain a notamment porté un projet d'aménagement de 220 arrêts du réseau autocar sur l'ensemble de la Grande Terre. On parle aussi dans cette deuxième vague du plan de relance de garantir l'accès aux services essentiels que sont par exemple l'eau, les soins médicaux. 18 projets ont été retenus, soit 3,3 milliards de francs. Parmi eux, on notera la création d'un centre d'accueil médico-social à Lifou ou la création en province sud d'une unité médico-judiciaire. Troisième priorité, renforcer la résilience du territoire. Le plan finance plusieurs opérations permettant de mieux préparer la Nouvelle-Calédonie aux conséquences du changement climatique et aux risques naturels.
Alors ce quatrième volet de cette deuxième vague du plan de relance est consacré à la diversification économique du territoire. 2,5 milliards de francs débloqués pour accompagner le développement de nouvelles activités économiques.
Remettre les entreprises au travail, c'est l'objectif, notamment le secteur du BTP, durement touché par la crise. Plusieurs chantiers vont donc être lancés. L'un des plus attendus, en tout cas par les membres de sa communauté enseignante, c'est la rénovation et l'extension du lycée Escoffier à Nouméa. Au mois de mai, le personnel de l'établissement était en grève. Il protestait contre des conditions de travail et d'accueil des élèves très dégradées, et ce depuis de nombreuses années. Enseignante au lycée Escoffier depuis 18 ans, Séverine Campaneru défendait les intérêts de ses collègues et des 1200 élèves du lycée. Selon l'annonce faite vendredi, le plan de relance de l'État financera des travaux pour un coût d'un milliard de francs.
On attend ça depuis plusieurs années. Normalement, ce qui avait été dit, c'est que nous aurions 1 milliard. 650 millions pour un bâtiment neuf qui devrait accueillir la vie scolaire, le CDI, la salle des profs, certaines salles de cours, les vestiaires pour l'EPS. Normalement, dans le nouveau bâtiment, il devrait y avoir des toilettes neuves pour nos élèves. Et on a aussi 350 millions qui seraient destinés à l'hôtellerie. Les collègues de l'hôtellerie font des miracles en ce moment pour assurer les cours. Ce qui n'a pas résolu encore, c'est le problème de cantine, de la restauration. Pour le moment, il n'y a aucune solution qui nous est apportée, donc on espère qu'il y aura une solution. Alors, on est heureux, hein, mais on reste prudent. Parce que ce n'est pas la première fois qu'une enveloppe qui est donnée pour le lycée Escoffier et que l'enveloppe part ensuite ailleurs. Donc on croise les doigts pour que les travaux débutent vraiment avant le 31 décembre. Et on attend toujours une solution pour nos élèves pour qu'ils puissent avoir accès à la cantine le midi.
Autres équipements vieillissants, ce sont ceux du lycée agricole Michel Rocard à Pointe-Boute. L'établissement a au moins 30 ans et accueille 950 élèves, dont 450 en internat. Là encore, dans des conditions qui ne sont pas toujours propices. Le lycée va donc recevoir 640 millions pour des travaux. Écoutez son directeur, M. Hassan Samr.
Le volet agriculture, l'établissement était très vieillissant et il nécessitait une rénovation complète, notamment des internats qui fuient, des bâtiments qui sont dégradés. Je ne vous parle pas des fuites, je ne vous parle pas de l'état de vétusté des différents bâtiments. On a un certain nombre d'Algeco, voilà, qui étaient là pour durer 3-4 ans et qui sont là depuis 20 ans. Tout le volet enseignement agricole était menacé. Et donc c'est avec énormément de plaisir et de satisfaction que nous avons accueilli le fait d'être retenus dans ce projet.
Les dossiers de financement de ces deux établissements scolaires ont été portés par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Cette vague 2 du plan de relance fait suite à une première vague de financement pour un montant de 6,8 milliards de francs pour cette première vague.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure de votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu avec notre question du jour. La vague 2 du plan de relance avec plus de 10 milliards de francs injectés par l'État va-t-elle permettre selon vous de relancer les entreprises du BTP? Si vous pensez que oui, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. Un important dispositif de pompiers et de police est déployé à l'UNC ce matin vers 8 heures. Un incendie d'origine accidentelle s'est déclaré. Une vingtaine de pompiers s'est rendue sur place pour ce feu qui a provoqué un important dégagement de fumée au niveau du bâtiment des langues et de la mobilité. Le major Jérôme Paradzinski est intervenu en tant que chef d'équipe.
On a été appelé sur les alentours de 8 heures à peu près, donc pour une fumée importante au niveau des locaux, donc au premier étage d'un bâtiment R+1, rez-de-chaussée, premier niveau. Donc arrivé sur les lieux, on a lancé des reconnaissances, pas de flammes apparentes, donc on a trouvé l'origine qui serait partie d'une prise électrique. Le feu s'éteint par lui-même au départ par manque d'air. Et là, on est en train de procéder à la ventilation des locaux. Les collègues sapeurs-pompiers sont engagés avec ce qu'on appelle des ARI, des appareils respiratoires isolants, justement pour se protéger, parce que beaucoup de fumée. Pas de victimes, déjà, ça c'est une bonne chose. Après, ouais, beaucoup de dégradation due à la fumée. Dans le local où est parti le feu, tout a fondu, c'est irrécupérable.
150 mètres carrés du bâtiment ont été impactés par ce sinistre, visiblement d'origine électrique. L'UNC va relocaliser les activités. Ces pièces servent au programme de mobilité et pour des activités liées aux langues. À propos de l'UNC, notez qu'un dernier hommage a été rendu à Éric Michalak. Ses obsèques ont été célébrées ce matin. Les étudiants et les personnels ont salué la mémoire de celui qui aura marqué l'histoire du sport étudiant calédonien et du futsal. Éric Michalak s'est éteint la semaine dernière à l'âge de 62 ans, des suites d'une longue maladie. Les réserves de sang sont au plus bas face à une nouvelle situation préoccupante. Le centre du don du sang lance un appel urgent à la mobilisation des donneurs. Pourquoi ces stocks sont-ils si faibles et comment chacun peut agir? Les explications d'Axel Lascaux, c'est la responsable du centre du don du sang.
Depuis quelques semaines, on a une fréquentation du centre du don qui a beaucoup diminué avec le jour férié, etc. Et une consommation qui est toujours présente à l'hôpital. Et donc là, on a les stocks de sang qui sont bas sur les groupes O, A et B. Pour retenir que sur le territoire, on est autosuffisant, hein, on n'achète pas de sang ni en France, ni en Australie, etc. Les poches, elles peuvent venir que de nous, donc il faut que quand les stocks comme ça sont bas, c'est important que la population se mobilise pour qu'on puisse pas remonter les stocks et pouvoir transfuser les patients qui en ont besoin. Si vous avez été malade dans les 15 derniers jours, juste si vous êtes malade, il faut attendre une quinzaine de jours et puis sinon, vous êtes le bienvenu, évidemment.
Le centre du don du sang est ouvert du lundi au vendredi de 7h15 à 14h15. Exceptionnellement, il ouvrira ses portes dès 6h30 vendredi et de 7h15 à 12h samedi avec ou sans rendez-vous. Le week-end a été marqué par des intempéries sur l'ensemble du territoire et la Nouvelle-Calédonie a été touchée pendant 2 jours par des précipitations soutenues. Ce matin, seules les îles Loyauté et l'île des Pins restaient en vigilance jaune. Écoutez Claude Van Royen, prévisionniste au Centre Météo France de Nouvelle-Calédonie.
L'axe actif pluvio-orageux qui a circulé sur la Calédonie se situe maintenant sur les Loyauté, légèrement à l'est d'une ligne Lifou-île des Pins. Donc il y a encore des averses qui peuvent être localement soutenues, voire orageuses sur cet axe ou à proximité. Mais la majeure partie du territoire se retrouve, et notamment la Grande Terre, se retrouve maintenant en marge de l'activité la plus intense. On continue à avoir des précipitations qui circulent sur la Calédonie, mais d'une intensité bien plus faible. Donc ce matin, nous sommes passés en vigilance verte sur la majeure partie du territoire. Et en termes de précipitations sur la totalité de l'épisode, on on est sur des cumuls de l'ordre de 150 à 200 mm de pluie sur les zones sud-est de la Calédonie notamment, et également les Loyautés, 241 mm à Lifou, 220 mm à Ponérioin. On a dépassé les 300 mm sur l'extrême sud de la Calédonie, à Yaté.
Les fortes pluies de ce week-end ont provoqué une montée des eaux qui a conduit à un drame à Touho samedi matin. Un homme est mort noyé. Il se trouvait à bord d'un véhicule qui a été emporté par le courant alors qu'il tentait de traverser un radis en crue. Plusieurs axes routiers ont été aussi impraticables pendant le passage du phénomène et des événements sportifs ou festifs ont été annulés comme la fête du Diaot à Ouégoua. Il reste des perturbations encore aujourd'hui, notamment dans les transports scolaires et la cantine qui ne sont pas assurés à Wailou, à Ponérioin et à Thio. Il est 11h46, la première pause de ce journal. Dans un instant, une page culture. Nous parlerons danse et Miss.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Bureau Vallée.
Mercredi pédagogique, direction Bureau Vallée, Magenta. Profitez de moins 20% sur les rayons beaux-arts, loisirs créatifs et librairies. Peinture, dessin, lecture, activités créatives. Partagez de bons moments en famille, sans vous ruiner. Offre valable chaque mercredi pédagogique chez Bureau Vallée, Magenta.
Bureau Vallée, on met la barre très haut et les prix très bas.
Des portes et fenêtres bien fermées évitent les pertes de fraîcheur. Dans une pièce climatisée, fermez les accès pour garder la bonne température. C'est moins de consommation et plus de confort. Toutes nos astuces sur le site EEC.
Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Baudin.
La danse calédonienne à l'assaut de la scène australienne, où l'histoire d'une belle aventure, celle de Stan Cabarlouet et de son école de danse L'Avant-Scène. Après les émeutes, il crée une chorégraphie, Le Cri Muet des Fleurs, présentée l'an dernier au Centre culturel du Mont d'Or. Un succès qui arrive jusqu'aux oreilles des responsables du Thomas Dixon Center de Brisbane, qui décide d'inviter Stan Cabarlouet et ses danseuses pour deux représentations fin août. Une belle surprise, nous a-t-il expliqué ce matin.
C'est vraiment une surprise et en même temps c'est aussi grâce à une interview que j'ai fait dans vos locaux il y a un an où des personnes ont entendu en fait parler du spectacle et ont envoyé d'autres gens venir voir et à partir de là le lien a été fait avec Thomas Dixon. Ils ont vu des vidéos et ils ont vu quelques images du spectacle qu'on a fait l'an passé et à partir de là le projet d'aller danser en Australie a pris forme. C'est une scène internationale, c'est vraiment une institution culturelle phare de Brisbane. L'Thomas Dixon, donc c'est le centre du Queensland Ballet, et c'est tout à fait exceptionnel qu'une troupe calédonienne, si je peux dire, un groupe chorégraphique, soit invité dans ce lieu où ils programment habituellement des têtes d'affiches australiennes. Ils le disent eux-mêmes, c'est un projet pour eux qui est spécial. Ils sont vraiment enthousiastes de nous accueillir, de découvrir aussi notre travail, de découvrir le thème aussi de la pièce qui est universelle. Ils nous parlent déjà d'une suite, enfin en tout cas c'est ce qu'ils sous-entendent.
Avant ces deux représentations au Thomas Dixon Center de Brisbane, les Calédoniens auront la primeur du travail mené par le chorégraphe. Trois représentations du Cri Muet des Fleurs sont programmées ce week-end au Centre culturel du Mont d'Or. Un spectacle plus complet que celui de l'an dernier, fruit d'une longue maturation, nous a expliqué Stan Cabarlouet.
Au départ, j'étais pas prêt à pouvoir créer quelque chose. Et puis finalement, je me suis aperçu que je n'avais pas les mots pour pouvoir en parler de tout ce que les Calédoniens ont vécu, de ce qu'on a vécu. Et je me suis rapatrié sur ce que je sais faire de mieux, c'est-à-dire danser, transmettre par le langage du corps. Le temps a passé et puis le succès aussi qu'on a eu l'année dernière m'a fait réfléchir. Et à partir de là, j'ai revu mon propos, j'ai approfondi mes tableaux. Maintenant, on arrive à une pièce d'1h30, hein, donc il y a 16 tableaux supplémentaires. Depuis, l'émotion a mûri, si je puis dire. Les danseuses qui interprètent cette chorégraphie ont aussi vécu cette période difficile et de retransmettre avec aussi beaucoup de sensibilité le message que j'essaie de faire passer. Donc voilà, on arrive sur un spectacle qui est beaucoup plus construit, prêt à être présenté à un public et prêt aussi à aller à l'international.
Le Cri Muet des Fleurs, ce sera donc ce week-end au Centre culturel du Mont d'Or. Deux représentations samedi à 14h30 et 18h, une représentation dimanche à 17h. Stan Cabarlouet et ses 9 danseuses se produiront ensuite à Brisbane les 29 et 30 août. Un autre spectacle, mais pour une élection. Cette fois-ci, ce sera samedi soir, l'élection de Miss Nouvelle-Calédonie 2026. Et nous en parlons avec Stella Levanao, la présidente du comité Miss Nouvelle-Calédonie. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est la dernière ligne droite. C'est la dernière semaine de préparation. Dans quel état sont les 8 candidates ?
Elles sont, je dirais, un petit peu fatiguées quand même, parce qu'on dimanche a été notre dernier événement. On était avec les gendarmes pour une journée de team building, de cohésion et de gestion de stress. Donc on les remercie vraiment du fond du cœur, parce que ça a été une très belle journée. Elles sont fatiguées, mais la fatigue n'efface pas la motivation. Donc on leur a demandé de bien se reposer en journée, puisqu'elles vont répéter tous les soirs. Elles seront au Numéri Certain Spa en répétition à partir de demain soir. Et puis après, c'est la dernière ligne droite, hein, je dirais.
Et vous, dans quel état êtes-vous? Parce que pour vous aussi, c'est un rush cette dernière semaine, avant justement ce grand gala de samedi soir.
Oui, derrière, nous, on est dans l'ombre, dans les coulisses, et on est toute une équipe de bénévoles. On est fatigués aussi, parce qu'on a nos emplois respectifs à gérer aussi, mais tellement heureuses, parce qu'on avait beaucoup de femmes. On a un jeune homme quand même qui est en métropole. Mais c'est juste la volonté de pouvoir construire le pays à travers cette élection.
Et c'est une élection qui remporte toujours beaucoup d'engouement, hein, qui est toujours très suivie par les Calédoniens.
Oui, on aime, on n'aime pas.
Normal.
On critique pas. L'important, c'est que les Calédoniens en puissent leur apporter un spectacle, un moment de bonheur. Donc j'entendais juste avant le spectacle de Stan, qui a été notre directeur artistique fut un temps. Je lui souhaite vraiment un très beau spectacle. Et c'est vrai que nous, c'est pas qu'une élection, un défilé, c'est vraiment un spectacle. Alors cette année, ça sera Voyage en beauté, avec notre partenaire compagnie aérienne internationale. Je ne pense pas que j'ai le droit de citer en antenne.
Oh, si, c'est possible.
Air Calin.
Ouais, voilà.
Donc ça a été vraiment un plaisir.
En même temps, le choix était restreint. Donc,
voilà, vraiment un plaisir de construire, de pouvoir retracer les escales, pas toutes, mais les principales, et surtout celle qui a été créée en dernier, celle de Paris. Donc ça sera notre dernier tableau, et on est très contents, on a hâte de vous montrer ces différentes escales. On part à Tahiti, on part en Australie, on part en Thaïlande et on termine en France à Paris.
Alors c'est un spectacle, certes c'est un gala, mais c'est aussi une élection. Qui vote pour Miss Nouvelle-Calédonie? Comment on peut faire?
Alors,
pour sa candidate préférée, bien évidemment.
Le public est invité à voter depuis le 1er juin au 42 et par SMS, en rentrant uniquement le numéro de leur candidate préférée, et ces votes SMS dureront jusqu'à ce que le présentateur, donc notre cher Bruno Fortin, disent à l'antenne, c'est terminé, les votes s'arrêtent.
Voilà, pour l'instant, ils peuvent donc continuer à voter.
Oui, et j'encourage le public à voter. Alors, il y a le vote des candidates, mais il y a aussi un jeu avec plein de cadeaux à gagner offerts par nos partenaires.
Alors, vous allez, j'imagine, pas nous révéler tout du gala de samedi soir. Vous nous avez donné le thème, vous nous avez donné envie. Est-ce qu'il y aura des surprises aussi à l'occasion de ce gala? Parce qu'il faut renouveler le genre, il faut attirer le public.
Oui, chaque année est un spectacle unique. Cette année, oui, nous avons une surprise parce que jusqu'à la dernière minute, on a eu des incertitudes. On est très très heureux de vous apprendre que nous avons l'honneur de recevoir Miss France 2018, Maëva Cook, qui arrive avec 24 heures de retard. Mais elle est là, elle arrive mercredi soir.
Elle sera là pour l'élection.
Oui, elle sera là pour l'élection. Elle est là juste avant la répétition générale qui a lieu jeudi. On est enchantés de la cœur sur, et surtout, elle nous amène le diadème de Miss Nouvelle-Calédonie 2026, créé par la bijouterie Mauboussin. Donc on a vraiment, vraiment hâte de recevoir Maëva, qui est une Miss France exceptionnelle, d'un charisme incroyable. Donc c'est un honneur de la recevoir.
Et ce lien avec Miss France est important pour vous ?
Ce lien avec Miss France est important en termes de visibilité au niveau national, européen, international. La Nouvelle-Calédonie, nous contribuons à ce rayonnement au-delà de notre cher caillou. Et c'est important. Le public métropolitain ne connaît pas suffisamment le territoire. On a traversé des moments difficiles et c'est notre devoir, notre rôle à tous et au sein du comité Miss Nouvelle-Calédonie de pouvoir offrir au public international et national une Nouvelle-Calédonie avec toutes ses richesses.
Une dernière question, Stella Levanao. Juliette Collet va donc rendre sa couronne, son règne s'achève. C'était une bonne Miss ?
Juliette est une Miss charismatique et adorable. Elle a su mener sa carrière à l'international aussi, puisqu'elle continue aussi bien localement, national, au niveau national et au niveau international. Elle est très dynamique et je lui souhaite vraiment de pouvoir continuer à rayonner. Et encore merci Juliette pour nous avoir offert un si beau titre de première dauphine de Miss France. On aurait aimé effectivement la couronne, mais c'est un énorme cadeau qu'elle offre à la Nouvelle-Calédonie.
Stella Levanneau, merci beaucoup d'être passée dans nos studios.
Merci à votre fidélité, merci à RAW de toujours penser à nous.
Rendez-vous donc samedi soir pour ce gala et pour cette élection de Miss Nouvelle-Calédonie 2026 qu'on espère évidemment recevoir très rapidement aussi dans nos studios. Merci beaucoup.
Merci bien.
Il est temps de marquer une nouvelle pause dans ce journal à 11h56 avant de voir dans un instant l'actualité en métropole et dans le monde.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Attention, plus que quelques jours avant le tirage au sort du million en bons d'achat sur RRB. N'attendez pas le dernier moment pour vous inscrire. Envoyez maintenant RRB au 40-20. Il n'y a pas de liste préétablie. Le ou la gagnante décidera comment dépenser son million. Et puis, il y a toujours 100 000 francs à gagner en bons d'achat. Si vous êtes le 1500e SMS, pile sur le compteur.
Alors n'hésitez plus, envoyez maintenant RRB au 40-20. Chaque SMS compte pour le tirage du million le vendredi 7 août à 14h. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. Saisissez votre chance, envoyez RRB au 40-20.
Retrouvez le tout info avec Toyota.
Le tout nouveau Toyota RAV4 hybride est à découvrir chez Toyota, à Ducos et à Koné. Nouveau design, nouvelle couleur, venez essayer le nouveau Toyota RAV4. Confort, technologie, performance, une expérience de conduite rien que pour vous. Toyota à Ducos et à Koné, téléphone 25 52 52, financement sur place.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
La suite de votre journal d'actualité en métropole avec Jean-François Bodin.
Oui, d'abord avec une confirmation. Les ossements trouvés en fin de semaine dernière dans le Tarn sont bien ceux de Delphine Jubilard. Son mari Cédric niait avoir tué son épouse en 2020, mais il a fini par avouer le meurtre par courrier depuis sa cellule. C'est sur indication que les enquêteurs ont retrouvé les ossements de sa victime qui ont été donc confirmés par les analyses ADN. Pas d'accalmie sur le front des incendies. Après celui de la forêt de Fontainebleau, c'est le Var qui est touché. 180 hectares ont été ravagés par les flammes non loin de Draguignan. Feu qui n'est toujours pas fixé. Des incendies sévissent aussi en Corse, dans des zones difficiles d'accès. Et la France n'est pas le seul pays touché. En Espagne, 13 000 hectares ont été brûlés au nord de Madrid. Le projet de loi sur l'urgence agricole dans sa dernière ligne droite, il doit être définitivement adopté par le Parlement cette semaine. Et parmi les enjeux de cette loi, l'utilisation de pesticides jusque-là interdits. Alexandre Chauveau pour Europe 1.
Si le texte était voté par les deux chambres, plusieurs filières pourraient bénéficier d'une dérogation pour réutiliser certains pesticides. Sur avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, les cultures de betteraves, de pommes, de cerises ou de noisettes pourront ainsi à nouveau avoir recours au flupyradifurone ou à l'acétamipride, deux insecticides de la famille des néonicotinoïdes autorisés en Europe mais interdits en France. Leur utilisation avait été autorisée par la loi Duplomb mais censurée par le Conseil constitutionnel l'été dernier. Dans ce nouveau texte, la dérogation de l'État ne pourra excéder un délai de 3 ans. Les parlementaires ont également validé en commission mixte paritaire le doublement des capacités de stockage d'eau à usage agricole d'ici 2035, les fameuses méga-bassines décriées par les écologistes mais réclamées par les agriculteurs. Les procédures de construction ont notamment été simplifiées. En cas d'approbation par les deux chambres, néanmoins rendue incertaine par la réécriture des sénateurs, le gouvernement espère voir plusieurs mesures entrer en vigueur dès cet été.
Cérémonie de commémoration à Paris la nuit dernière à l'occasion du 84e anniversaire de la rafle du Veldiv à Paris. 13 000 juifs avaient été rassemblés et la plupart d'entre eux avaient été ensuite envoyés vers les camps de la mort. La ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, Aurore Berger, a rappelé que la lutte contre l'antisémitisme restait d'actualité. D'autant plus qu'il y a quelques jours, une plaque rendant hommage à une famille de justes a été dégradée.
L'antisémitisme n'est pas une passion morte dont nous pourrions examiner les vestiges avec la sérénité des temps révolus. Les formes changent, le poison demeure et nous ne céderons rien. C'est tout le sens du projet de loi que j'ai présenté ce mois-ci. Et c'est aussi pourquoi la dégradation il y a quelques jours de la plaque rendant hommage à Arsène et Angèle Richard, juste parmi les nations, et à leur fille Marcel, nous bouleverse autant. Cette famille avait sauvé au péril de sa vie un enfant juif de 13 ans, Edmond Richemont, lors de la rafle du Veldiv. Ce n'est pas une simple plaque que l'on a profanée. Ce sont des noms qu'on a voulu effacer. Et la République répondra toujours de la même manière, en prononçant leurs noms, en protégeant leur mémoire et en refusant que la haine ait le dernier mot.
Aurore Berger, ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. L'actualité à l'étranger, en bref, et la guerre se ravive au Moyen-Orient. L'armée américaine a mené plusieurs attaques sur le régime de Téhéran en riposte à la mort de deux soldats américains tués par des frappes iraniennes en Jordanie. L'Iran a d'ailleurs visé des cibles dans d'autres pays du Golfe. De nombreux observateurs craignent une extension régionale du conflit. Et puis la Coupe du monde de football, nous allons en parler dans le Mac des sports dans un instant, avec la victoire ce matin de l'Espagne en finale. Une Coupe du Monde XXL cette année avec pour la première fois 48 nations représentées et 104 matchs disputés. Un événement sportif, mais aussi une belle manne financière pour la FIFA. Les explications de Barthélémy Philippe.
Un jackpot pour la Fédération internationale de football. La Coupe du Monde aurait rapporté 9 milliards de dollars à la FIFA, un peu plus de 7 milliards d'euros. Des recettes en hausse de 75% par rapport à la dernière édition. Avec 5 milliards de téléspectateurs, les droits télé auraient permis à l'organisateur d'empocher 4 milliards de dollars. Les spots publicitaires se sont vendus à prix d'or, 10 000 à 500 000 euros. Le sponsoring aurait rapporté 2 milliards de dollars. Avec les partenaires habituels Adidas, Coca-Cola, Visa, mais surtout Aramco. La compagnie pétrolière saoudienne a signé un méga contrat à 11 milliards de dollars pour sponsoriser les compétitions de la FIFA jusqu'en 2034. Enfin, il y a les 7 millions de billets mis en vente pour la compétition, montant des recettes au moins 3 milliards de dollars. Le système de tarification dynamique a propulsé la Coupe du Monde dans une autre dimension. Certains billets pour la finale se sont vendus 28 500 euros.
Et c'est donc l'Espagne qui a remporté la finale de la Coupe du Monde.